6. Lorsque le sas se fut refermé derrière eux, Travis eut l'impression d'avoir écarté non pas exactement un cauchemar, mais une chose si sérieusement anormale qu'elle l'avait empêché de respirer librement. Il avait parfaitement conscience que cet élément d'anormalité était encore avec lui en la personne de Joie. Lorsqu'elle était là, Gaïa y était aussi. Et pourtant, il était également persuadé que sa présence était essentielle. C'était le coup de la boîte noire qui marchait de nouveau, et franchement, il espérait bien ne jamais se mettre à trop croire à cette histoire de boîte noire. Il considéra l'astronef et le trouva superbe. Il n'était à lui que depuis que le maire Harlan Brano de la Fondation l'avait de force fourré dedans pour l'expédier dans les étoiles. Paratonnerre vivant destiné à attirer les foudres de ceux qu'elle considérait comme des ennemis de la Fondation. Cette tâche avait été remplie, il avait gardé le vaisseau et n'avait aucune intention de le restituer. Il ne le possédait que depuis quelques mois, mais il s'y sentait chez lui et n'avait plus que le vague souvenir d'avoir vécu naguère sur Terminus. Terminus. Le noyau excentré de la Fondation, destiné, selon le plan Seldon, à former un second empire plus vaste au cours des 5 prochains siècles. Sauf que lui, Travis, l'avait désormais fait dérailler. Par sa décision personnelle, il réduisait à néant la Fondation et rendait possible à la place une nouvelle forme de société, un nouveau modèle de vie, une révolution terrifiante, plus vaste que tout ce qui s'était produit depuis le développement de la vie multicellulaire. Et à présent, il était lancé dans un voyage destiné à lui prouver ou non le bien fondé de cette décision. Il se trouva perdu dans ses pensées, immobile, si bien qu'il dut se secouer, irrité après lui. Il se hâta vers le poste de pilotage où il retrouva son ordinateur. Il brillait. Tout brillait. On avait fait un nettoyage méticuleux. Les contacts qu'il ferma, presque au hasard, fonctionnaient à la perfection et, lui parut-il indéniablement, avec une facilité plus grande encore qu'auparavant. Le système de ventilation était tellement silencieux qu'il dut plaquer la main sur les bouches d'aération pour s'assurer du courant d'air. Le cercle de lumière sur l'ordinateur scintillait, encourageant. Travis l'effleura, et la lumière s'étendit pour recouvrir la tablette sur laquelle apparurent les contours d'une main droite et d'une main gauche. Il prit une profonde inspiration et s'aperçut qu'il était resté quelques instants le souffle coupé. Les Gaïens ignoraient tout de la technologie de la Fondation, et ils auraient tout aussi bien pu endommager l'ordinateur sans aucune intention malveillante. Jusqu'à présent, tel n'avait pas été le cas. Les empreintes de main étaient toujours là. Le test crucial restait toutefois d'y plaquer l'une de ses mains. Et durant un instant, il hésita. Il allait savoir, presque immédiatement, si quelque chose clochait. Mais si tel était le cas, que pourrait-il y faire? Pour d'éventuelles réparations, il lui faudrait retourner à Terminus, et s'il le faisait, il était bien certain que le maire Brano ne le laisserait plus repartir. Et s'il ne s'y rendait pas? Il sentait battre son cœur. Il était à l'évidence inutile de prolonger délibérément le suspense. Il lança les mains devant lui, droite, gauche, et les plaça sur les contours de la tablette. Aussitôt, il eut l'illusion qu'une autre paire de mains avait agrippé les siennes. Ses perceptions s'étendirent, et il devint capable de voir Gaïa dans toutes les directions, humide et verte, les Gaïens toujours en train d'observer. Lorsqu'il voulut regarder vers le haut, ce fut pour apercevoir un ciel généralement nuageux. À nouveau, obéissant à sa volonté, les nuages s'évanouirent pour lui révéler le ciel d'un bleu immaculé où filtrait l'orbe du soleil de Gaïa. Encore une fois, il exerça sa volonté. Le bleu s'ouvrit et il aperçut les étoiles. Il les effaça, désira voir et vit la galaxie, tel un volant en raccourci. Il mit l'image à l'épreuve, ajusta son orientation, altérant la progression apparente du temps, la faisant tourner dans un sens, puis dans l'autre. Il localisa le soleil de Seychelles, l'étoile importante la plus proche de Gaïa, puis le soleil de Terminus, puis celui de Trentor, l'un après l'autre. Il voyagea d'étoile en étoile sur la carte galactique qui résidait dans les entrailles de l'ordinateur. Puis il retira ses mains et laissa le monde du réel l'entourer de nouveau, pour se rendre compte qu'il était resté debout tout ce temps, à moitié penché au-dessus de l'ordinateur pour assurer le contact par ses paumes. Il se sentait raide et dut s'étirer les muscles du dos avant de s'asseoir. Il contempla l'ordinateur avec un chaleureux soulagement. Il avait parfaitement fonctionné. Il avait même eu, si c'était possible, plus de répondants. Et Trévise avait perçu en lui ce qu'il ne pouvait décrire que comme de l'amour. Après tout, pendant qu'il tenait les mains de l'appareil, il se refusa résolument à les voir comme des mains de femme. Ils étaient partie intégrante l'un de l'autre, et sa volonté dirigeait, contrôlait, vivait, s'intégrait dans un moi plus grand. Lui et la machine devaient éprouver, à un moindre degré, pensée soudaine dérangeante, ce qu'éprouvait Gaïa à bien plus vaste échelle. Il secoua la tête. Non. Dans le cas de l'ordinateur et de lui, c'était lui, Trévise, qui détenait la maîtrise absolue. L'ordinateur était un objet de totale soumission. Il se leva pour gagner la cambuse exiguë et le coin repas. Il y avait toutes sortes de vivres en abondance, avec le système de réfrigération et de cuisson facile adéquat. Il avait déjà remarqué que dans sa cabine, les vidéolivres étaient parfaitement classés, et il avait la certitude raisonnable, non totale, que la bibliothèque personnelle de Pellorat était tout aussi bien rangée. Dans le cas contraire, il aurait déjà entendu de ses nouvelles. Pellorat. Tiens, au fait. Il pénétra dans la chambre de ce dernier.
Y a-t-il ici de la place pour jouer, Janov?
Oh oui, tout à fait.
Je peux transformer la salle commune en chambre pour elle?
Joie leva vers lui ses grands yeux.
Je n'ai nul désir d'une chambre à part. Je suis tout à fait satisfaite de rester ici avec Pelle. Je suppose, toutefois, que je puis utiliser les autres pièces si besoin est. La salle de gym, par exemple.
Certainement. Toutes les autres cabines, sauf la mienne.
Bien.
C'est l'arrangement que j'aurais moi-même suggéré si j'avais eu à en décider. Naturellement, vous ne pénétrerez pas dans la nôtre.
Naturellement,
dit Trévise qui baissa les yeux pour découvrir que ses semelles dépassaient le seuil. Il recula d'un demi-pas et dit maussade,
« Il n'y a pas de quoi passer ici sa lune de miel, Joie. »
J'oserais dire que, vu l'exiguïté des lieux, ça conviendrait pourtant à merveille. Et encore, Gaïa les a agrandis de moitié.
Trévise se retint de sourire. « Il faudra vous montrer très amicaux. »«
Nous le sommes, » dit Pellorat, que le sujet de la conversation rendait à l'évidence mal à l'aise. « Mais franchement, mon bon ami, vous pouvez nous laisser nous arranger tout seuls. »
« Justement, non, » répondit lentement Trévise. « Je veux bien vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un voyage de noces. Je n'ai aucune objection à ce que vous pouvez faire par consentement mutuel, mais vous devez bien vous rendre compte que vous ne jouirez d'aucune intimité. J'espère que vous comprenez cela, Joie. »«
Il y a une porte ?»
observa cette dernière. « Et j'imagine que vous ne nous dérangerez pas lorsqu'elle sera verrouillée, en dehors bien sûr d'une réelle urgence. »
« Bien sûr que non. Toutefois, il n'y a pas d'isolation phonique. »
« Ce que vous essayez de dire, Trévise, dit Joie, c'est que vous entendrez tout à fait clairement toutes nos conversations ou les bruits éventuels que nous sommes susceptibles d'émettre au cours de rapports sexuels. »
« Oui. » C'est ce que j'essaie de dire. Et gardant ceci à l'esprit, je compte bien que vous en viendrez éventuellement à limiter ici vos activités en ce domaine. Cela pourra vous paraître désagréable et j'en suis désolé, mais c'est la situation telle qu'elle est.
Pellorat se racla la gorge et dit doucement.
À vrai dire, Colan, c'est un problème que j'ai déjà dû affronter. Vous vous rendez bien compte que toute sensation que peut éprouver Joie lorsque nous sommes ensemble, est éprouvée par Gaïa tout entière.
« J'y ai pensé, Janoff, » dit Trévise, l'air de retenir une grimace. « Je n'avais pas l'intention de l'évoquer, juste au cas où l'idée ne vous serait pas venue. »«
Mais elle m'est venue, j'en ai peur, » dit Pellerate.
Joie intervint.
« N'en faites pas tout un plat, Trévise. À tout instant, il y a peut-être des milliers d'êtres humains sur Gaïa engagés dans des rapports sexuels, des millions qui mangent, boivent ou se livrent à d'autres activités dispensatrices de plaisir. Tout cela suscite une aura générale de plaisir que Gaïa ressent dans le moindre de ses éléments. Les animaux inférieurs, les plantes, les minéraux ont leur plaisir progressivement de plus en plus atténué, qui contribue de même à un plaisir de la conscience généralisée que Gaïa éprouve en tout temps et dans tous ses éléments, une joie qui n'est ressentie dans aucun autre monde.
« Nous avons nous-mêmes nos propres formes de plaisir, » dit Trévise, « que nous sommes en mesure de partager, d'une certaine manière, si nous le désirons, ou de garder pour nous, si nous le désirons aussi.
Si vous pouviez éprouver les nôtres, vous vous rendriez compte à quel point vous autres isolats pouvez être déficients en ce domaine.
Comment pouvez-vous savoir ce que je ressens?
Sans savoir de quelle manière vous ressentez, il est toutefois raisonnable de supposer qu'un monde de plaisir partagé doit être plus intense que l'ensemble de ceux disponibles pour un unique individu isolé.
Peut-être pas. Mais même si mes plaisirs sont déficients, j'ai coutume de garder pour moi mes joies ou mes peines, et de m'en satisfaire, si mince soit-elle, d'être moi-même, et non le frère de sang du premier caillou venu.
« Ne raillez pas, » dit Joie. « Vous appréciez le moindre cristal minéral dans vos os et vos dents, et n'aimeriez pas voir l'un d'eux endommagé, même s'ils n'ont pas plus de conscience que n'importe quel cristal de roche de la même taille. »
C'est effectivement exact. Admis Trévise à contre-cœur, mais nous avons réussi à glisser hors du sujet. Peu m'importe que Gaïa tout entière partage votre plaisir, Joie. Moi, je ne tiens pas à le partager. Nous vivons ici dans un environnement exigu, et je n'ai pas envie d'être forcé de participer à vos activités, même indirectement.
Vous discutez bien pour rien, mon brave ami, intervint Pellerate. Je n'ai pas plus envie que vous de voir violer votre intimité ou la mienne tant que nous y sommes. « Joie et moi saurons rester discrets, n'est-ce pas, Joie ?»«
Il en sera selon votre désir, Pelle. » »«
Après tout, » dit Pellerate, « nous avons toutes les chances d'être bien plus longtemps à Terre que dans l'espace et sur les planètes. Les occasions d'avoir une intimité véritable, » Trévise l'interrompit. « Je me fiche de ce que vous pourrez faire sur les planètes, mais sur ce vaisseau, je suis le maître à bord. »«
Exactement, » dit Pellerate.
Eh bien, maintenant que ceci est réglé, il serait temps de décoller.
Mais attendez!
Pellerate le tirait par la manche.
Décoller pour où? Vous ne savez pas où se trouve la Terre, moi non plus, Joie non plus. Idem pour votre ordinateur, car vous m'avez dit depuis longtemps qu'il ne contenait pas la moindre information sur cette planète. Que comptez-vous faire alors? Vous ne pouvez pas simplement errer dans l'espace au hasard, mon ami.
À cela, Trévise sourit presque avec allégresse. Pour la première fois depuis qu'il était tombé dans l'étreinte de Gaïa, il se sentait maître de son propre destin.
« Je vous assure que je n'ai pas l'intention d'errer au hasard, Janoff, » lui répondit-il. « Je sais exactement où je vais. »